Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haulaway, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10-1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On a le plaisir d'avoir Robert Pledge de la dotation Catherine Leroy qui va nous parler de cette photojournaliste et dont les photographies sont exposées au Ballarat International Photo Biennale ici en Australie jusqu'au 19 octobre. Robert Pledge, bonjour et bienvenue.
Bonjour, je suis ravi d'être avec vous de si loin d'ailleurs, de très loin même.
Et on va parler de cette exposition de photographie ici en Australie qui s'appelle Catherine Leroy, One Way Ticket to Vietnam 1966-1968. D'abord, peut-être parlez-nous de Catherine Leroy.
Oui, l'exposition porte bien ce titre, One Way Ticket to Vietnam, qui est celui du livre qui sort d'ailleurs prochainement et qui existe en une version anglaise aussi, One Way Ticket to Vietnam. Donc, Catherine Leroy est un personnage un petit peu, j'allais dire, à la fois mythique et oublié. Elle est quelqu'un qui a eu une reconnaissance certainement dans des milieux professionnels parce qu'elle était la seule photographe de guerre, de combat, ce que vous voulez, au Vietnam dans les années 60, dans les années américaines de la guerre les plus américaines, c'était 66, 67, 68, les plus intenses. Il y avait nombreux journalistes, beaucoup de photographes également, de toute nationalité, mais pas de femmes. Elle était la seule. Il y avait bien une femme qui l'avait précédée, une américaine, Dickie Chappelle, qui a été tué en novembre 65, donc juste 4 mois avant l'arrivée de Catherine Leroy, qui ne connaissait d'ailleurs pas du tout ce photographe tout à fait remarquable. Donc, elle a été la seule pendant ces 3 années-là, et absolument charmée. C'est une jeune Française qui vient d'un milieu, qui venait d'un milieu plutôt conservateur, traditionnel, très assez religieux, etc., et qui était un peu en rébellion contre l'environnement dans lequel elle vivait, et qui, en tous les cas, était destinée au départ à une carrière musicale de pianiste, de musique classique, mais elle a bifurqué sur le jazz et puis sur l'Amérique et puis finalement sur le Vietnam qui était l'événement le plus important sur le plan mondial, international à cette époque-là. Un conflit évidemment dans le cadre de cette guerre froide qui était chaude au Vietnam bien sûr, mais entre le bloc des communistes et le bloc des capitalistes et voilà. Et donc, elle s'est plongée là-dedans parce qu'elle était curieuse de connaître ce qui se passait sur le terrain.
Et donc, comme les GIs qui étaient au Vietnam, elle avait presque le même âge qu'eux.
Alors, ça, c'est ça. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est que, et souvent, d'ailleurs, un malentendu, parce que beaucoup de gens croyaient qu'elle était comme ça, elle défendait la position américaine dans la guerre, elle soutenait le projet, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ce n'est pas vraiment ça du tout. Ce qui l'a vraiment marqué, c'est que quand elle a débarqué, elle s'est rendue compte que ces soldats avec qui elle partait en opération quasiment toutes les semaines, elle est la seule le seul journaliste, d'ailleurs, de la presse écrite ou photographique, etc., qui passait autant de temps en opération militaire au Vietnam pendant ces 3 années-là, ces 3 années très intenses. Et Michel Ray en parle d'ailleurs dans son livre. Donc elle passait un temps fou et donc elle a bien connu ses soldats. Et ses soldats étaient des appelés pour la plupart. Ils étaient appelés, ils n'étaient pas professionnels. L'encadrement l'était en partie, mais c'était des jeunes qui venaient de toutes les régions des États-Unis et qui avaient exactement le même âge qu'elle, 21 ans. Elle avait 21 ans quand elle a débarqué, elle avait 23 ans quand elle a quitté le Vietnam, et ça, c'était l'âge moyen des soldats américains qui se trouvaient là. Et je crois que c'est ça qui l'a vraiment marqué. D'abord, elle s'est identifiée, elle les comprenait, elle aimait les mêmes musiques, elle s'intéressait aux mêmes choses. C'était l'époque où, évidemment, l'Amérique était à 20 ans après la fin de la guerre, ou 15 ans après la fin de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique était en vogue, naturellement, pour un tas de raisons. Mais elle a compris qu'il y avait un phénomène de génération là. Alors, ce n'est pas tant qu'elle s'intéressait strictement à la guerre, elle s'intéressait bien sûr aussi aux victimes de la guerre, aux enfants, aux femmes, aux mères, etc., à ceux qui étaient tués de l'autre côté, l'ennemi ou les suspects de complicité avec l'ennemi des Américains. Mais ce n'était pas ça. C'était cette question de génération à laquelle elle appartenait, quoi. C'était, en fait, les baby boomers, si on veut.
Et donc, elle est partie au Vietnam avec un one-way ticket, comme on dit, et on lui offrait $15 la photo, et elle a signé le contrat, c'est ça?
Oui, alors, elle n'avait même pas vraiment de contrat, il y avait un contrat oral verbal entre elle et les agences, verbales, et les agences filières avec lesquelles elle travaillait, UPI, mais principalement Associated Press, AP, la plus grande de toutes, avec qui elle avait une relation forte au cours de la première année, la première moitié de son séjour, notamment parce qu'il y avait un rédacteur en chef qui était photographe lui-même, un Allemand, Horst Fass, qui était très protecteur de ces photographes et qui a été totalement fasciné par le personnage de Catherine Leroy et lui a donné une chance, la seule femme, de pouvoir travailler pour cette association, pour la Société de Presse. Et c'est comme ça qu'elle est partie, mais elle venait, voilà, c'est une aventure, elle est partie. Elle serait partie plus tôt même si elle avait pu obtenir un passeport plus tôt qu'elle ne l'a pu, c'est-à-dire à l'âge de 21 ans. À l'époque, on ne pouvait obtenir de passeport qu'avec l'autorisation parentale à cette époque-là, ce qui fait qu'elle a patiemment attendu d'avoir 21 ans. Elle a économisé des sous, elle était déterminée. Elle avait abandonné le projet d'une carrière musicale classique et était totalement déterminée de se rendre au Vietnam parce qu'elle était fascinée par le fait que c'était d'une part l'événement le plus important qui existait, mais aussi parce qu'il y avait une relation aussi avec la France. Le Vietnam, c'était l'ancienne Indochine française, oui. Et qui avait évidemment, quand elle était jeune, dans les années 50, c'était la guerre franco-indochinoise et Dien Bien Phu en 1954. Donc c'est quelque chose qui avait une résonance chez elle. Et elle était curieuse de comprendre ce qui se passait dans ce pays et pourquoi de l'Indochine c'est devenu le Vietnam et pourquoi c'est devenu quelque chose d'aussi significatif. Elle était simplement curieuse et elle voulait être photographe de guerre, couvrir cette guerre.
Peut-on parler de la photographie qui est entrée dans l'histoire, la photographie où elle a capturé le visage d'un Marine qui tient dans ses bras un camarade mort, je crois que c'était en 1967, sur la colline 881.
C'est ça, exact. Alors, d'ailleurs, précision aussi, moi, c'est que le personnage que l'on voit avec un regard très angoissé qui essaye d'apporter secours à Marine tuée, lui-même n'est pas marine. Les marines n'avaient pas de personnel médical. C'était des gens de la marine, mais pas des marines, de la marine, la Navy, si on veut plus être précis, qui étaient les infirmiers des marines. Et donc, ça, évidemment, ça, il y a une confusion. Et elle était au pied de la colline 1880, quand des premiers assauts ont eu lieu, extrêmement difficiles, dans un terrain terrible. D'abord en pente et qui avait été largement bombardé et qui était étouffé par les broussailles et les branchages de toutes sortes. Et quand elle a vu ce marin aller au secours du marine, elle l'a suivi, c'est-à-dire l'a crawlé derrière lui-même a crawlé, pour grimper la colline, la pente vers le blessé, qui en fait était mortellement blessé, n'a pas survécu. Et elle était à quelques pas derrière lui, présente dans la broussaille, parce que ça canardait de côté. Et elle a fait une extraordinaire série de 8 images, dont une est perdue d'ailleurs, le négatif est perdu. Et 5 de ces images sont d'ailleurs dans l'exposition, elle-même à Ballarat, bien sûr. Et c'est un moment extrêmement fort, d'une part parce que là, encore une fois, on comprend, ce marine, il avait, cet infirmier, il avait 19 ans. Et celui qui a été tué en avait 20 ou 21 peut-être. C'est-à-dire, encore une fois, c'était des gens de sa génération. Et je crois qu'avec les années qui passaient, les mois qui passaient, elle s'est rendue compte du gâchis terrible que représentait ce conflit pour cette génération. Et que c'était des morts certainement inutiles qui... Des soldats appelés qui ne savaient pas très bien en fait pourquoi ils étaient là, mais qui faisaient preuve d'un courage et souvent d'un héroïsme étonnant compte tenu des circonstances, parce que l'ennemi, leur ennemi, était un ennemi invisible. Jamais ils ne voyaient de soldats de l'autre côté. C'était quelque chose d'hallucinant et qui crée évidemment énormément d'anxiété. Et même avec tous les hélicoptères du monde et tout l'équipement militaire, ça a été pour l'armée américaine un combat extrêmement difficile. L'ennemi était invisible.
Quel est l'héritage de Catherine Leroy? Car elle a pu tracer un chemin pour les femmes avec les photos prises au Vietnam qui l'ont fait entrer dans l'histoire du photoreportage.
Oui, alors, et c'est un peu comme M. Jourdain qui essaie d'apprendre sans le savoir, elle n'était pas consciente de ça, elle ne s'en préoccupait pas, il y avait une tradition féminine, mais très, très, très étroite en photographie dite de combat, de guerre. Évidemment, des personnages assez connus comme Lee Miller ou Margaret Bourke-White, qui étaient des Américaines, ou Dickie Chappelle, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure. Alors, c'était des Américaines, toutes les trois, et ça s'explique d'ailleurs très bien, parce que la Seconde Guerre mondiale et après la guerre, les photographes qui pouvaient se déplacer dans les zones de combat étaient essentiellement des Américains. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de photographes femmes, il y avait peu de photographes d'ailleurs du tout qui couvraient les combats parce que l'Europe était occupée, parce que toute une... alors que les Américains, qui d'ailleurs avaient des moyens, des ressources à travers des publications extrêmement importantes comme Life, et Look, et le National Geographic, et Vogue, qui offraient des contrats importants leurs photographes, dont quelques femmes, dont j'ai mentionné le nom. Catherine Leroy était la seule femme, était indépendante, n'avait aucun soutien particulier et était obligée de se débrouiller, débrouiller toute seule et avec une persistance, un courage tout à fait exemplaire.
Et comment est-ce que la dotation Catherine Leroy fait pour faire perdurer la mémoire de cette photographe?
Quand Catherine Leroy est décédée en juillet 2006, elle n'avait que 61 ans, elle n'avait pas vu un médecin depuis un quart de siècle, ou un peu plus même, mais elle se sentait mal, vraiment, et elle est allée finalement à l'hôpital, et a été diagnostiquée avec un cancer généralisé, et 2 semaines plus tard, elle est partie. Donc c'était vraiment terminal, et elle a attendu la dernière minute, quand, voilà. Moi, je l'avais vue quelques mois auparavant avec Don McCollin, le célèbre photographe de guerre britannique, à San Francisco, où il y avait un hommage qui lui était rendu à elle, Catherine Roy, et elle nous avait invités à venir parce qu'elle ne voulait pas être la vedette de son propre hommage et assister pour qu'il y ait des gens qu'elle respectait qui soient présents. Et on l'avait vue dans un état vraiment très détériorée, on était très préoccupés, et donc quand elle est morte quelques mois plus tard, on n'était pas très surpris. Mais c'est quelque chose d'extrêmement triste. Elle a essayé de refaire une seconde carrière aux États-Unis, en Californie, pensant que peut-être en travaillant dans le monde d'Hollywood, du show business, elle arriverait à gagner plus de sous. Mais ça, c'est une illusion. Moi, mes photographes de guerre ne sont pas toujours à préparer à entrer dans un autre univers. Elle était, à mon avis, clairement victime du fameux syndrome post-traumatique. Elle ne le reconnaissait pas, mais elle en avait tous les symptômes, c'était clair. Et ça a été une fin de vie extrêmement difficile pour elle. Elle ne s'était jamais vraiment occupée de son héritage photographique, était dispersée à travers le monde dans des magazines, dans des agences filières ou autres comme Gamma, SIPA et des agences françaises. Et il nous a fallu, quand elle est morte, à quelques-uns des gens qui la connaissaient se sont dit, ça c'est terrible, mais c'est un personnage unique. Elle a été première lauréate en photographie du prix Georges Polk. Elle a été la première femme à recevoir la très prestigieuse médaille d'or Robert Capa. Tout son travail est dispersé. Elle va être complètement oubliée. Elle l'est déjà. C'est pas possible. On doit faire quelque chose. Et à quelques-uns, c'est ce qu'on a fait. On a passé 2 ans à essayer de regrouper tout le matériel qu'on pouvait à travers les connexions que nous avions. Et puis l'aide de la seule survivante de Catherine Leroy, sa mère, Denise Leroy, une petite dame absolument adorable de 93 ans, qui évidemment était très préoccupée par la situation et nous disait « Mais moi, je ne connais rien à tout ça, je ne sais pas comment m'y prendre. » Et on lui a dit « Ne vous inquiétez pas, on va pas s'en charger. » Mais elle a été une source d'information évidemment extrêmement précieuse. Et finalement, elle a été une source de plus que d'information parce que peu avant qu'elle ne meure elle-même, elle avait 93 ans quand on l'a rencontrée, quand Catherine Leroy est morte. Et à un moment donné, quand j'ai compris que son héritage était destiné à aller à l'église catholique dans sa totalité, je suis allé la voir et j'ai plaidé avec elle de ne pas oublier la petite chapelle de Catherine Leroy. Et évidemment, elle a été surprise, elle a dit « Mais vous avez raison, je vais réécrire mon testament et je vais donner de l'argent à à cette dotation, qui est une sorte de fondation à but non lucratif, extrêmement contrôlée par les autorités culturelles, etc. Et elle a fait don à cette dotation, donc, d'une part de l'œuvre dans sa totalité, les négatifs, les tirages, les diapositives, tout ce qui était écrit, tout ce qui était publié d'elle, qu'elle avait conservé chez elle, dans sa maison à Anguin. Et elle a aussi donné de l'argent pour pouvoir gérer tout ça, qui nous a permis d'entreprendre ce travail initial de regroupement, d'organisation des archives, et pour essayer de comprendre ce qu'on pouvait en faire. Il nous a fallu longtemps pour arriver à donner une forme qui nous menait en fait au livre, un aller simple pour le Vietnam, et donc à l'exposition, qui est la première exposition jamais tiré entièrement à partir du travail original et des négatifs et des diapositives de Catherine Auroi. C'est une grande première. Ouais. Et le hasard fait que c'est en Australie, des séries de rencontres, et je suis absolument ravi que ce soit là, et je crois que Catherine Auroi aurait aimé que ce soit là, parce que c'est un endroit un peu inattendu. On aurait pensé à la France, bien sûr, et aux États-Unis, où elle a quand même une réputation, certainement, dans les milieux professionnels, sinon auprès du grand public.
Robert Pledge, merci infiniment de nous avoir éclairés sur les œuvres de Catherine Leroy, et peut-être un petit message à lancer aux gens qui nous écoutent pour les encourager à aller voir cette exposition à Ballarat dans le Victoria en Australie.
Oui, je crois que il y a quelque chose de très contemporain, hélas, j'allais dire, à propos de cette exposition, parce que c'est évidemment le Vietnam des années 60, mais ce Vietnam des années 60, c'est un conflit qui n'est pas extrêmement différent des conflits actuels à travers le monde, de l'Ukraine à Gaza d'ailleurs, où Catherine Auroi a d'ailleurs passé énormément de temps, parce que après le Vietnam, elle passera une dizaine d'années, peut-être un peu plus même, à travailler essentiellement au Moyen-Orient, et essentiellement ou en grande partie sur toute la question d'Israël et de la Palestine et des Palestiniens, et de ce conflit qui se poursuit encore. Et j'espère que cette exposition de Ballara va être un premier pas vers la découverte de l'autre énorme chapitre du travail de Catherine Leroy, c'est-à-dire le Moyen-Orient essentiellement. Mais ce Vietnam, un regard 50 ans plus tard, puisque la guerre s'est terminée en 1975, il y a 50 ans exactement, est quelque chose d'extraordinaire, de le faire à travers un regard de femme, c'est tout à fait remarquable. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de photographes féminins importants, de toute nationalité, mais à l'époque, certainement, c'était quelque chose d'extrêmement rare. Elle ne se proclamait pas particulièrement féministe ou pas, elle était photographe, comme dit Chapelle d'ailleurs, comme ça, mais en fait, elles ont ouvert la voie à toute une génération de photographes tout à fait remarquables. Voilà, c'est un personnage remarquable, mythique, qu'il faut, ouais. Avec ses défauts, avec le livre les souligne tout aussi bien que ses qualités, mais c'est un personnage complet et qui mérite qu'on s'y intéresse à travers l'exposition et à travers le livre qui va sortir très prochainement.
Merci à vous et à bientôt.
Merci, merci, merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.